Comme tous nos clients prévoyants, mettez votre famille à l'abri avec l'assurance d'essai. Sounou Assurance, notre métier d'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez entendre dans notre émission les noms de Britney Spears, Amy Winehouse ou Mariah Carey. Non, vous ne vous êtes pas trompés. Vous écoutez bien Priorité Santé. Alors pourquoi faire référence à ces célébrités dans une émission consacrée à la santé? Eh bien, parce qu'au-delà de leur production musicale, de leur performance vocale, eh bien, ces trois femmes ont, à l'instar d'autres artistes, publiquement révélé ou affiché être concernées par un trouble psychique, trouble bipolaire, addiction, dépression, schizophrénie. Certaines figures publiques, de plein gré ou malgré elles, abordent ce pendant de leur personnalité et peuvent même finir pour certaines d'entre elles par l'incarner. Au-delà des célébrités, la fiction, notamment à travers le cinéma, fournit aussi sa vision, son interprétation de la maladie mentale, parfois par la caricature, en contribuant à renforcer certaines idées reçues, parfois avec beaucoup de justesse, en décrivant les comportements, le ressenti du patient et de son entourage, et par ce biais, peut même devenir un précieux outil de sensibilisation et de lutte contre les stigmatisations. De Shining de Stanley Kubrick à Vol au-dessus d'un nid coucou de Milos Forman, en passant par Psychose d'Alfred Hitchcock, les grands réalisateurs ont porté à l'écran l'angoisse, l'obsession, le traumatisme, conduisant à ce que cette pop culture contribue à une meilleure compréhension de ces maladies mentales. Et c'est d'ailleurs le sous-titre de votre livre, hein, Pop et Psy, publié aux éditions Plon. Comment la pop culture nous aide à comprendre les troubles psychiques? Docteur Jean-Victor Blanc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, où vous prenez particulièrement en charge les addictions et les patients atteints de troubles bipolaires. Nous serons tout à l'heure en ligne avec Gérard Garouste, figure majeure, s'il en est, de la peinture française contemporaine, peintre, sculpteur, graveur, atteint de troubles bipolaires, co-auteur avec Judith Pérignon du magnifique livre « L'intranquille » sous-titré « Autoportrait d'un fils, d'un peintre, d'un fou ». La perception de la visibilité de ces troubles psychiques, maladies mentales, vue là de RDC. Tout à l'heure, nous serons en ligne avec le neuropsychiatre, le professeur Samuel Mampunza, ancien doyen de la faculté de médecine de Kinshasa, actuel secrétaire général académique de l'université protestante au Congo, également président de la Société africaine de santé mentale. En fin d'émission, nous allons parler des dernières préconisations de la Haute Autorité de Santé en matière de dépistage néonatal. Suggestion de voir le dépistage de la drépanocytose étendue. Nous serons en ligne avec le docteur Corinne Pondaré, spécialiste de cette maladie du sang, qui dirige le centre de référence pédiatrique au sein du centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Priorité santé sur RFI.
Alors, aborder les troubles psychiques d'une manière différente, tordre le cou au cliché en citant des parcours, des films, des personnalités qui parlent au grand public. C'est donc le choix que vous avez fait au travers de ce livre à la fois divertissant et documenté, docteur Jean-Victor Blanc, avec, j'ai trouvé, le défi de parler de cette maladie en donnant des noms, en citant des exemples, sans tomber dans le voyeurisme. Est-ce que vous aviez un petit peu peur, justement, de montrer du doigt, de désigner et là aussi de contribuer d'une certaine manière à la caricature ?
Effectivement, ça aurait pu être un des écueils en parlant de ce sujet-là et en utilisant des personnages publics. Mais justement, dans le livre, j'ai utilisé uniquement des personnages et des célébrités qui en ont parlé en leur nom propre. Donc, c'était pas du tout l'idée de faire un livre avec des révélations. Des ragots, effectivement, de type presse à scandale. Il y a aucune révélation dans le livre, sur les célébrités en tout cas. Il y a peut-être des révélations sur ce qu'est la santé mentale, et effectivement, tordre le cou à certaines idées reçues, expliquer ce qu'est, par exemple, la schizophrénie. Mais il n'y a pas de révélation concernant les célébrités. C'était pas du tout dans l'idée de pointer du doigt. Au contraire, c'est plutôt changer le regard vers quelque chose de plus bienveillant et de plus positif envers la santé mentale et les personnes concernées.
Des troubles assumés, on l'a bien compris, hein, définir, illustrer le propos, faire référence à des titres, des figures de la pop culture. Est-ce que vous avez le sentiment, vous êtes psychiatre, on l'a dit, que pour ce domaine particulier de la santé mentale, peut-être plus que pour la médecine, on va dire, du corps, médecine physique, médecine organique, docteur Jean-Victor Blanc, il faut justement aller vers la lutte contre la stigmatisation, en tout cas, corriger des idées reçues.
C'est certain que les maladies mentales sont probablement les troubles qui restent aujourd'hui les plus stigmatisés et pour lesquels il y a de plus d'idées reçues et le moins de connaissances. Un exemple assez simple de la peine que peuvent avoir les patients, c'est que non seulement ils sont malades, donc ça c'est universel, c'est injuste, c'est compliqué, parfois c'est très grave, parfois non, mais en plus ils doivent à la fois prouver qu'ils sont malades. Or ça, on ne le voit dans aucune autre champ de la médecine. Quelqu'un qui dit « j'ai un cancer », personne
ne doute de son honnêteté
et de dire « ah bon, monte-moi la prise de sang ». Quelqu'un qui va dire « j'ai un trouble bipolaire »,« ah bon, moi aussi, de temps en temps, je change d'humeur, quand ça va pas, je me secoue ». Et ce qui est assez, assez illustrant, et pourquoi je pense que la prise de parole de célébrité, elle peut aider, c'est que c'est la même chose. Quand Angelina Jolie parle de sa mastectomie, pour un risque de cancer, personne n'aurait osé, heureusement, dire « mais est-ce qu'elle fait ça pour la promo de son film ?»
Chirurgie, j'explique pour les auditeurs, chirurgie, ablation des seins pour prévenir un risque de cancer du sein.
Exactement. Donc ça, c'était il y a quelques années, elle en a parlé dans le New York Times, et ça a permis une amélioration des soins en santé oncologique. Quand Maria Carré parle du trouble bipolaire, un tiers des réactions sur les réseaux sociaux, selon l'étude qu'on a menée, montrait que c'était des réactions négatives, qui disaient « bah non, elle fait ça pour... »
attirer l'attention d'une certaine manière.
Exactement.
Alors, expliquer avec des illustrations connues du grand public, hein, c'est ce que vous proposez dans votre livre, c'est donc ce qu'on va reprendre dans cette émission, avec de nombreuses références cinématographiques et musicales. Ça donne la chair de poule. Bande originale du film, on ne va pas le laisser trop longtemps parce que sinon les auditeurs vont fuir. Bande originale du film Psychose d'Alfred Hitchcock, composition de Bernard Herrmann. Docteur Jean-Victor Blanc, de quelle maladie souffre Norman Bates, qui est donc incarné par Anthony Perkins à l'écran dans le chef-d'œuvre du maître de l'angoisse, Anthony Perkins, donc ce film Psychose tourné en 1959. Il a quoi ?
Alors c'est difficile de dire ce qu'il a et d'une manière générale, je pense qu'il faut éviter de s'abstenir sur les œuvres de fiction de donner un diagnostic puisque c'est jamais exactement bien montré. Donc je pense qu'il faut.
Je suis d'accord avec vous, mais les auditeurs se posent, les spectateurs se posent quand même la question. Ils se disent parfois, même s'ils sont devant une fiction, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'un jour sur mon parcours, je pourrais rencontrer quelqu'un qui souffre de ci ou de ça ?
Bien sûr, on l'a vu par exemple avec le succès du film Joker qui est sorti récemment, où c'était une des questions que tout le monde se pose. Mais alors, le Joker, il a quoi ? Le Joker, il n'a pas une pathologie psychiatrique définie. Il a un ensemble de choses. Il a des hallucinations, ce qu'on peut voir dans certaines pathologies comme la schizophrénie. Il a une distorsion de la réalité. Il a aussi ce rire spastique assez caractéristique qui, pour le coup, ressemble plutôt à un symptôme neurologique qui, notamment dans le film, peut être en lien avec son traumatisme crânien. Donc, c'est une sorte de pot-pourri, de chimère, de symptômes. Et pour le coup, donner un diagnostic d'un personnage fictionnel comme ça, ça pourrait être augmenter l'incompréhension et voire être un peu injurieux pour les patients porteurs de ce diagnostic. Donc, il faut le voir comme une métaphore, comme un support. On peut parler de la santé mentale à travers le Joker. Il y a beaucoup d'angles qui sont intéressants pour en parler. Mais par contre, coller un diagnostic et surtout attribuer la folie, entre guillemets, du Joker à des patients dans la vraie vie, ça, ce serait pour le coup dangereux. Et au contraire, ça augmenterait.
Contre-productif.
Exactement.
Alors justement, par rapport à tous ces films qui abordent ce sujet de la maladie mentale, est-ce qu'il y a certaines pathologies, on peut dire, qui sont surreprésentées, c'est-à-dire au-delà de leur réalité épidémiologique ?
Effectivement, alors il y en a beaucoup. Par exemple, le trouble de la personnalité multiple, qui est extrêmement spectaculaire. On le voit dans énormément de films, de séries, peut-être le plus populaire étant Split. Donc le fait d'avoir plusieurs personnalités qui cohabiteraient au sein d'un même individu et qui s'alterneraient, c'est extrêmement cinématographique. Pourtant, c'est extrêmement rare. Moi, j'en ai jamais vu dans ma carrière. La plupart de mes collègues n'en ont jamais vu non plus. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais si ça existe, en tout cas, c'est certain que c'est beaucoup plus rare que la schizophrénie, par exemple, qui représente 1 à 2 % de la population et qui pourtant est moins représentée et moins justement représentée que ce diagnostic, par exemple.
Et s'il vous venait justement comme ça en tête des œuvres de fiction, des films qui apportent un éclairage particulièrement intéressant, peut-être sur la maladie aussi, mais sur les rapports sociaux associés associée à cette maladie. Vous citeriez quel film, docteur Jean-Victor Blanc ?
Dans le registre de la pop culture, ça peut être Happiness Therapy, une comédie romantique américaine très classique, mais dans lequel les deux personnages principaux, joués par Bradley Cooper et Jennifer Lawrence, ont un trouble psychique. Le premier a un trouble bipolaire. Ce qui a vraiment changé, je trouve, et qui est assez emblématique dans ce film par rapport au nouveau regard qu'on peut porter sur la santé mentale, c'est que c'est à la fois le sujet du film, mais en même temps, ça reste une comédie romantique. La plupart du film se passe en dehors de l'hôpital psychiatrique, avec des protagonistes qui sont pas malades, et donc qu'on voit en rétablissement. Donc ça, c'est déjà extrêmement important et assez rare. C'est incarné par des personnages qui sont pour lesquels on peut ressentir beaucoup d'empathie. Mm-hmm. Ils ne sont pas que des malades, ils sont aussi autre chose. Ils sont des personnages avec une histoire d'amour, etc. Et pour le coup, ça a été non seulement un succès public, mais aussi récompensé aux Oscars. Et je pense que c'est un bon exemple du nouveau regard, on pourrait dire, que la fiction apporte sur la santé mentale. En tout cas, un des succès les plus importants récents.
Côté positif, par contre, côté négatif, certains films peuvent vraiment caricaturer, et y compris le traitement de la maladie psychique. Mmh. Quand on a la vision de l'enfermement psychiatrique, là, docteur Jean-Victor Blanc, on passe à des choses qui peuvent être parfois totalement épouvantables. Quand on pense à Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman, on va dire avec des personnels carrément sadiques.
Effectivement, c'est très intéressant. Alors, ça permet de souligner le fait que, alors, c'est pas parce qu'un film est très beau, Vol au-dessus d'un nid de coucou, ça reste un chef-d'œuvre, et il n'est pas question de dire il faudrait le censurer.
Et l'interprétation de Jack Nicholson époustouflante,
exactement.
Ça n'empêche pas.
Mais ça a été un vrai traumatisme de l'autre côté, tel que Les Dents de la Mer ont pu l'être pour La Phobie des requins. Mm-hmm. Puisque c'est un film qui continue d'être cité extrêmement fréquemment et qui là aussi continue d'être inspiré d'autres œuvres. Par exemple, un des derniers films de Soderbergh, Paranoia, reprend peu ou prou les mêmes clichés. C'est-à-dire
les clichés notamment sur les électrochocs. Hein, c'est
exactement.
Vraiment une constante
exactement.
Qui rend totalement angoissant ce traitement qui reste pourtant encore aujourd'hui préconisé en institution psychiatrique.
Effectivement, puisque c'est le traitement le plus efficace qui existe contre la dépression. Pourtant, systématiquement dans les films, il est représenté d'une manière négative et notamment comme une punition, comme un acte de torture, souvent. Et là aussi, il y a une certaine peut-être paresse, hein, honnêtement, dans les certaines œuvres, puisque c'est systématiquement dans, on va dire, le dernier quart du film, à un moment où le personnage fait quelque chose qui est considéré comme abusif, et donc la punition étant l'électrochoc. Puis, avec un gros amalgame, avec la lobotomie, donc où on sectionne, où on enlève une partie du cerveau. Et donc ça, c'est, pour le coup, c'est des images extrêmement négatives et qui, quand on propose à un patient qui a besoin de ce traitement, le traitement est extrêmement présent et dit « mais vous n'allez pas me faire le traitement que je vois comme un acte de torture dans la plupart des films que j'ai vus sur le sujet ».
Avec aussi une confusion en matière de contrainte et de consentement.
Exactement, puisque c'est un traitement qu'on ne fait qu'avec le consentement du patient et de sa famille, donc jamais contre le gré de quelqu'un. C'est un traitement qui, aujourd'hui, est fait sous anesthésie. Donc là aussi, on se met à 5 pour attacher, saucissonner le patient et puis lui mettre un choc comme ça à la va-vite. C'est un traitement qui se fait uniquement de manière programmée, dans un espace dédié, en salle de réveil.
Mais aujourd'hui. Hier, est-ce que c'était le cas ?
Effectivement, hier, c'était pas le cas, mais quand on regarde d'autres aspects, quand on va voir, je sais pas, un neurochirurgien, on se dit pas, bon, à tout moment, il va sortir sa hache et me mettre un coup sur le crâne pour
on est dans un film d'horreur, c'est pas notre sujet du jour.
Effectivement, mais le grand public fait la différence quand il voit un film historique sur comment on traitait le cerveau ou le cœur il y a 50 ou 100 ans. Et pourtant, en psychiatrie, lié au manque de connaissances, le grand public fait pas forcément le distinguo entre une représentation historique et la réalité actuelle.
Alors, parler de soi, de son art et de sa maladie avec tout de suite un témoignage dans Priorité Santé.
RFI.
Ce témoignage, c'est le vôtre. Gérard Garouste, bonjour.
Bonjour.
Et merci infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous le dis, je suis très émue de vous parler. Vous êtes une figure majeure de la peinture française, moi je ne fais pas semblant, contemporaine, peintre, sculpteur, graveur, des toiles figuratives, des thèmes inspirés par les textes sacrés, la littérature, des couleurs vives, parfois sombres. En tout cas, c'est puissant, c'est angoissant, c'est euphorisant. Et il y a 10 ans, avec l'auteur Judith Pérignon, vous avez signé un livre magnifique qui s'intitule « L'intranquille », sous-titré « Autoportrait d'un fils, d'un peintre, d'un fou ». Ce fou, pour vous désigner, Gérard Garouste, c'est pas un problème pour vous de vous traiter de fou ?
Écoutez, non. Là, je dirais que je suis un peu porté par mon métier. Vous savez, par exemple, Van Gogh, le fait qu'il ait été hospitalisé avec des troubles mentaux, ça ne fait que renforcer son image de génie, etc. Et ça, c'est évidemment une mauvaise image. Je dois dire que quand on délire, et si on était banquier ou homme politique, ça poserait plus de problèmes. Mais ça, je veux dire que c'était, vous savez, c'est le côté un peu romantique qu'on attribue aux artistes. Plus il est fou, plus il est génial, ce qui est évidemment une très mauvaise analyse.
En tout cas, une sphère artistique qui est peut-être plus tolérante.
Oui, vraiment, mais encore une fois, vous savez, si Van Gogh, juste pour répondre à votre question, si Van Gogh avait connu les médicaments qui existent actuellement en psychiatrie, je peux vous dire qu'il aurait fait encore plus de tableaux, il aurait été plus heureux sans doute, et son œuvre aurait été beaucoup mieux. C'est pas parce qu'on délire qu'on est génial, sinon alors dans les hôpitaux, il y aurait beaucoup de génie à ce moment-là.
C'est plutôt en dehors de ces phases de délire que la créativité se manifeste.
Exactement.
Vous avez été diagnostiqué bipolaire suite à quel signe, justement? Parce que on vous entend, on a cette conversation, quand on va dans certains musées, on voit ces œuvres, mais vous avez aussi votre réalité de patient. Oui. Des crises vous ont conduit à plusieurs reprises à séjourner en hôpital psychiatrique.
Oui, bien sûr. Donc de toute façon, moi, dans mon enfance, j'étais très troublé par. J'étais vraiment en situation d'échec. Et là, quand je suis sorti, quand je suis devenu un homme, c'est-à-dire à l'âge 25 ans, 28 ans, là, tout d'un coup, oui, j'ai eu mes premières crises. Délirant, vous savez, le délire est une sorte de refuge, comme on se jette dans un précipice quand on a le vertige. Et donc, oui, là, tout d'un coup, j'ai eu des crises et qui se sont succédées. Donc, c'était entre les délires et les dépressions nerveuses. Et je veux dire que, en ce qui me concerne, les délires étaient plutôt agréables à vivre. C'était complètement fou et agréable, comme un shoot de drogue. Mais par contre, les dépressions, ma première dépression nerveuse a duré 10 ans. Et l'un va pas sans l'autre, et ça a été très dur. Mais je crois que même ça, aujourd'hui, les médicaments améliorent cette situation, et c'était pas logique que je fasse une dépression qui a duré 10 ans.
Et dans votre livre, hein, vous parlez, l'entourage, c'est essentiel, vous parlez de votre famille, notamment de votre épouse, toujours présente dans la compréhension, dans l'accompagnement, même quand vous décrivez des scènes particulièrement douloureuses.
Oui, ben ça, de toute façon, sans ma femme, je m'en serais pas sorti. Elisabeth, elle m'a sauvé la vie. C'est aussi simple que ça. Il faut être il faut avoir beaucoup de chance et être très bien entouré et avoir des personnes qui comprennent vraiment la situation. Donc, ces personnes doivent faire un effort parce que c'est pas du tout évident. La famille n'a pas une formation de médecin, de psychiatre ou de psychanalyste. Donc, et d'autant plus qu'on devient agressif contre ces personnes. J'ai été très, très violent contre ma femme, et le fait qu'elle dépasse ça, tout le monde lui disait, parce qu'encore une fois, j'ai fait des délires très graves, c'est pas la police que je me suis retrouvé en hôpital psychiatrique, c'est pas simplement une petite dépression nerveuse, un petit délire, c'est vraiment des choses très très graves. J'ai agressé du monde, et j'ai aussi agressé ma femme, et mes amis lui conseillaient de partir, de divorcer, de quitter. C'était pas possible. Et elle, jusqu'au bout, elle est restée là. Et j'avoue que moi-même, aujourd'hui, je comprends pas cette persistance à vouloir rester avec moi. Mais enfin, bon, c'est comme ça.
En tout cas, c'est une bonne persistance pour vous. Et puis, cette façon, justement, d'assumer la maladie, le trouble psychiatrique, avec aussi cette capacité d'en parler avec autant de lucidité. Elles sont rares, les œuvres, justement, où on parle de la folie avec de l'intérieur et en même temps, avec un regard qui semble totalement descriptif, objectif. Est-ce que vous avez vraiment l'impression, en tout cas c'est mon sentiment à lire votre livre, que ça peut vraiment être un outil pertinent pour lutter contre les idées reçues ?
Écoutez, en tous les cas, vous savez, j'ai été invité à participer à des conférences, des congrès même sur la psychanalyse, la psychiatrie. Et en effet, je crois, ayant vécu ça, je crois qu'on peut aider beaucoup de personnes, parce que ce soit du côté des patients ou du côté de la famille, les gens sont complètement angoissés sur le sujet. Moi, parfois on m'appelle, on me demande un conseil, et puis je donne des informations très simples, c'est-à-dire que moi, un hôpital comme Sainte-Anne, pour moi c'est un hôpital, je connais le Sainte-Anne, et j'ai connu d'autres hôpitaux psychiatriques, mais en tous les cas Sainte-Anne, je suis toujours suivi actuellement par Sainte-Anne. Mais grâce à cet hôpital, ça se passe très bien. Mais les gens, si vous leur parlez de Sainte-Anne, ça y est, Sainte-Anne, c'est
l'angoisse.
La camisole de fou, c'est l'angoisse et tout ça. Et donc, ils ne donnent pas suite à mon conseil. Mettez-vous, il y a des très bons médecins, mettez-vous en contact avec eux et vous verrez ça. Mais les gens sont terrifiés par le sujet. Vous savez, du côté patient, tout à l'heure vous parliez de films, il y a un film qui était formidable, parce que là, c'était pas le côté médical, mais c'était le côté patient. C'est ce film, vous en avez peut-être parlé au début de votre émission, un homme d'exception. Mm-hmm. Si vous vous souvenez de ce film, c'est une histoire vraie d'un grand mathématicien, qui a eu d'ailleurs le prix Nobel. Mais son délire, c'était un délire d'une grande banalité, classique, avec une grande mégalomanie, etc. Et ça, quand on vit avec ça, ce que j'ai pu vivre, j'ai vécu avec ça aussi, ça se soigne. Et maintenant, la médecine est vraiment souvent arrive à guérir. Évidemment, la médecine ne répond pas à tout, mais en tous les cas, pour certains délires, elle est formidable.
Gérard Garou, j'ai une dernière question. Est-ce que vous comprenez celles et ceux qui cachent leur folie?
Ben oui, bien sûr, parce que justement, si vous voulez, par exemple, si j'étais le maire d'un village ou si j'étais banquier, franchement, j'aurais pas écrit tranquille, parce que là, c'est terminé.
Vous avez eu de la chance d'avoir du talent, c'est ça?
Oui. C'est-à-dire que, vous savez, moi j'étais nul à l'école et le dessin, c'est ce qui m'a sauvé la vie, c'est ce qui m'a permis d'avoir une identité. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, la peinture, l'art m'a sauvé. Oui, c'est sûr, c'est une chance.
Merci beaucoup. Merci Gérard Garous pour ce témoignage. Je rappelle le titre de ce livre, Autoportrait littéraire, l'intranquille, aux éditions de l'Iconoclaste. Docteur Jean-Victor Blanc, je vous ai suivi justement en train d'écouter ce que disait Gérard Garouste. Réaction après ce témoignage?
Je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment un très beau témoignage. On sait au niveau médical, ce qui marche le mieux pour changer le regard sur la maladie mentale, c'est la prise de parole d'une personne atteinte d'un trouble psychique en phase de rétablissement et qui peut mieux que personne expliquer ce qu'est la maladie mentale. Et dans les propos de Monsieur Garouste, j'ai trouvé beaucoup de choses extrêmement riches, extrêmement intéressantes. Quand il fait l'analogie en disant j'ai de la chance parce que en tant qu'artiste, il y a une certaine tolérance que n'aurait pas dans le milieu de la finance, par exemple, ou si j'étais maire. C'est exactement vrai. Sauf que toutes les idées reçues sur justement le fait qu'il faudrait absolument être en grande souffrance psychique pour créer, et donc le corollaire étant de ne pas soigner, ces idées reçues, elles se retournent finalement contre les artistes, puisqu'effectivement, un chanteur qui va avoir un coup de blues, un acteur qui va, ou une actrice qui va se sentir en détresse, qui va être déprimé, le conseil qu'on pourra lui donner, ça va être très bien pour ton jeu, prends un peu d'alcool ou de substance, de cocaïne, etc., pour essayer de aller mieux, des choses qu'on verrait pas et qu'on conseillerait pas effectivement à un maire ou à un banquier. Et or, on sait que la plupart des substances, elles aggravent la plupart des troubles psychiques et l'absence de soins également. Donc, une prise de parole comme ça de quelqu'un qui est un immense artiste et qui peut parler à la fois de son expérience patient, mais aussi de ce que ça a pu changer dans sa vie, je trouve que c'est vraiment porteur d'espoir et c'est vraiment au centre de mon travail avec le livre ou mes conférences sur culture pop et psychiatrie.
Alors justement, limiter les confusions, parce qu'on l'a déjà dit, toutes ces idées fausses qui circulent sur la santé mentale, général. Et justement, vous proposez ça à travers différents chapitres. Il y a des tableaux assez pédagogiques pour bien distinguer les termes, les concepts, les maladies, tout simplement. C'est la dimension pédagogique de votre ouvrage. Par exemple, on distingue l'addiction, la drogue et les stupéfiants. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. Amy Winehouse, ils ont essayé d'aller me faire suivre une cure de désintox en 2006, Award de l'année pour la meilleure chanson 2007, Grammy Award. Elle refuse la cure de désintoxication dans sa chanson. Amy Winehouse, décédée à l'âge de 27 ans, ça reprend ce que vous venez dire exactement. Peut-être un entourage, on va pas dire malveillant, peut-être inconscient tout simplement, qui dit bah, finalement tu n'es jamais aussi bonne que lorsque tu es ailleurs, hein, on va dire dans la population, on pourrait dire, je vais le dire, défoncée, ça arrive aussi de le dire. Et finalement, c'est absolument épouvantable, c'est absolument dramatique pour une artiste comme Amy Winehouse.
Effectivement, je pense que c'est un très bon exemple de justement les idées reçues autour de art et créativité et de il faut pas se soigner pour créer. Le destin tragique d'Amy Winehouse, on le voit très bien dans le documentaire Amy.
Et elle qui cumule plusieurs pathologies graves.
Effectivement, où elle parle de troubles du comportement alimentaire et puis bien sûr le tout arrosé de substances qui encore une fois sont extrêmement délétères quand on a une vulnérabilité psychique et donc
une forte dépression
et donc on voit dans quelle détresse elle est dans le documentaire, avec quand même cette scène qui moi en tant que spectateur, en tant que médecin, enfin à tout niveau, m'a vraiment glacé le sang, où elle est justement en train de fumer alors qu'elle est censée être en réhab plusieurs années après le tube réhab, et que son compagnon de l'époque l'a fait chanter la chanson en lui disant bah alors Amy, tu disais que t'allais pas aller en réhab, mais là t'es où? Et elle, on la voit complètement effectivement ailleurs, sous l'usage de substances. Je trouve que c'est une image extrêmement forte et qui, je pense, peut être le support à essayer de se décoller justement de cette image romantique. Le club des 27, c'est quelque chose quand même de dramatique. C'est des gens qui sont morts à 27 ans.
Jim Morrison, Kurt Cobain.
Exactement.
Ces artistes, Jimi Hendrix, ces artistes, Janis Joplin, tous décédés au même âge, tous décédés d'addiction.
Exactement. Et je pense qu'il faut essayer d'arrêter de voir ça comme quelque chose de comme un succès, comme quelque chose d'enviable, comme quelque chose de romantique. Mais finalement, c'est surtout des personnes malades qui sont décédées de substances, d'abus de substances, et en tout cas en lien avec un trouble psychique, c'est certain.
Avec des fois un entourage qui est absolument impitoyable, sans parler des médias, des tabloïds qui appuient là où ça fait mal, qui ne montrent aucune pudeur, pas la moindre empathie, y compris face à des personnes en grande souffrance. Ça a été longtemps le cas pour Britney Spears. Baby, can't you see? Toxique 2004, Britney Spears. Je parlais tout à l'heure de ce rôle des médias, des personnes fragiles qui sont acculées. Surexposition, médiatisation, absence de répit. Britney Spears, la jeune femme qui a fini par reconnaître ouvertement souffrir de troubles bipolaires.
Effectivement, alors c'est ce qui est assez étonnant dans l'histoire de la pop culture et qui montre aussi que le sujet est de plus en plus visible, c'était qu'à peu près à la même époque, il y avait effectivement Amy Winehouse qui chantait Rehab, Britney Spears qu'on voyait traquée littéralement par les paparazzi avec des troubles du comportement, une énorme détresse et beaucoup de regards et beaucoup d'attention portée sur sa détresse. Et puis Whitney Houston qui elle aussi avait des problèmes au même moment. Donc c'était trois exemples, je trouve, assez criants et qui ont clairement marqué les esprits.
Vous utilisez, excusez-moi, le terme de coming out, comme on fait aussi dans la réalité des déclarations par rapport à sa vie sexuelle. Coming out, je suis malade. Comment est-ce qu'on l'interprète finalement? Est-ce que c'est une libération ou c'est une obligation sous pression?
Alors justement, c'est un coming out positif et justement le parallèle entre le coming out, par exemple, à propos de l'orientation sexuelle et de la maladie mentale, il est intéressant. Il y a beaucoup de recherches en sociologie, en anthropologie, puis en médecine, en psychiatrie sur le sujet, puisque c'est des sujets de discrimination qui peuvent être révélés ou non, à la différence, par exemple, de la discrimination sur la couleur de peau, où on ne peut pas faire de coming out, c'est quelque chose que la personne ne peut pas choisir de cacher ou pas. Pour l'orientation sexuelle comme pour la maladie mentale, il peut le faire. Ce qu'on sait, c'est que plus il y a de coming out, et notamment de coming out de personnes qui vont bien, qui peuvent avoir une prise de parole justement sur le sujet et montrer un autre regard, et pas uniquement celui de la souffrance, pas uniquement celui du fait divers, pas uniquement celui de la fin tragique, comme les célébrités dont on a parlé précédemment.
Comme nous disait tout à l'heure Gérard Garou, s'il va à des conférences tout à fait sérieuses, des psychiatres l'invitent pour dire ce qu'est sa vie avec la maladie.
Bien sûr, puisqu'on le sait que déstigmatiser, parler autrement de la maladie, ça améliore les soins, et que finalement, on peut voir ça d'une manière un peu lointaine, en disant, ah oui, toutes ces histoires de pop culture, de célébrités, on est loin de la science, on est loin de la médecine, or pourtant, c'est complètement faux. Un de mes jeunes confrères, Nicolas Rinto, quand il dit déstigmatiser, c'est un médicament, je suis tout à fait d'accord.
Ça fait partie de la thérapie.
Ça fait partie de la thérapie, puisque sans cela, les patients ne peuvent pas consulter, ne peuvent pas s'en ouvrir à leur entourage. Le témoignage de Monsieur Garou, c'était extrêmement éclairant là-dessus. Bien sûr qu'il y a besoin de soins, mais les soins seuls ne suffisent pas. Il faut aussi un entourage, il faut une compréhension, il faut une bienveillance. Il faut une bienveillance aussi au niveau de notre société tout entière. Et tant que ça, c'est pas possible, tant qu'on ne change pas le regard sur la santé mentale, c'est impossible pour les patients de se rétablir, d'aller mieux et de continuer leur chemin.
Coup de projecteur sur la bipolarité, maladie qu'on a citée déjà à plusieurs reprises depuis le début de cette émission, docteur Jean-Victor Blanc. On a vu l'exemple de Britney Spears, une porte-parole particulièrement efficace de cette maladie, et peut-être que l'on n'attendait pas, c'est Mariah Carey. Elle évoque publiquement, en avril 2018, son combat contre le trouble bipolaire, et elle décrit très précisément ses symptômes. Vous citez justement la façon dont elle parle de sa maladie, elle a des mots très très justes.
Effectivement, dans le livre, je reprends quasiment mot pour mot son interview qu'elle a donnée au magazine People, où elle parle effectivement du trouble bipolaire. Ce qui, moi, m'a saisi, et c'est à peu près à ce moment là que j'ai eu l'envie et je me suis dit qu'il fallait écrire ce livre, c'est que ces paroles, c'est quasiment mot pour mot celles que tous les patients peuvent me dire, c'est-à-dire au début, on m'a annoncé le diagnostic de trouble bipolaire, je n'y croyais pas. Pas tant parce que je ne croyais pas le médecin, mais parce que je ne voulais pas qu'on m'attribue cette chose négative.
La phase de déni.
Exactement, la phase de déni. Puis elle dit que finalement, elle a accepté, qu'elle a commencé à comprendre ses symptômes. Donc elle explique très bien les symptômes, par exemple, d'excitation maniaque, qui est donc la phase d'excitation. Elle dit, pendant toute la nuit, j'enregistrais des hits, mais pour moi, c'était normal. Je n'avais pas sommeil sans être fatigué. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, ce qui est très souvent le cas pour le coup chez les patients bipolaires dans la phase maniaque. Et ensuite, elle dit qu'elle a choisi de se soigner, qu'elle a décidé de se faire soigner par un psychiatre, qu'elle a pris des médicaments, ce qui là aussi marque quand même vraiment quelque chose d'extrêmement nouveau, novateur et libérateur. Puisque c'est sûr que jusque-là, il y avait quand même des prises de parole de célébrités, mais on était quand même sur des discours qui sont plus loin d'une réalité médicale, qui était du style, j'allais très mal, et puis j'ai tout mis dans mon album, et puis j'ai prié, et puis...
Et je prends des médicaments et ça marche. Là aussi, ça contribue à lutter contre toute la stigmatisation des traitements, des produits, des antidépresseurs, des anxiolytiques, qui sont encore souvent montrés, finalement, comme pire que le mal.
Exactement. Exactement, et ça c'est un vrai problème au quotidien en tant que médecin, où quasiment systématiquement les traitements sont mal perçus par les patients quand on leur en parle pour la première fois, quand ils ne connaissent pas. Il y a un rejet initial, mais encore plus au-delà, par exemple dans le groupe de psychoéducation qu'on fait à l'hôpital pour les patients atteints de troubles bipolaires, c'est extrêmement fréquent que les patients me disent « je dois me cacher pour prendre mes médicaments parce que sinon ma famille va me dire « tu prends encore ça ». Or, le trouble bipolaire est une maladie chronique, donc par définition, un traitement au long cours est nécessaire. C'est pas une faiblesse, c'est pas un confort que de prendre un traitement. Et là, encore une fois, ça viendrait à personne à l'esprit de quelqu'un qui a fait un infarctus de lui dire 2 ans après, ah bon, mais tu prends encore ton traitement pour ton infarctus, passe à autre chose, va te balader dans les bois et ça irait mieux. C'est complètement injuste et ça montre, je trouve, cette méconnaissance.
En tout cas, on voit que si certains messages contribuent à lutter contre la stigmatisation avec ce qu'on a cité au sujet de la chanteuse Mariah Carey, c'est pas dans tous les cas. Avec, on va dire, le contre-exemple, hein. C'est Kanye West qui affiche lui aussi son trouble bipolaire. À vous lire, hein, vous êtes vraiment beaucoup plus réservé sur sa façon de faire, sa façon notamment de communiquer, y compris dans le vocabulaire. Par exemple, une citation qui est restée célèbre parce qu'elle était sur l'un de ses albums, même si ça n'était pas le titre. Citation, « Je déteste être bipolaire, c'est génial ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors là-dessus, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop dur envers Kanye West. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans un autre registre, donc Kanye West, qui est un personnage extrêmement provocant, qui est extrêmement polarisant, qui a eu des prises de parole parfois extrêmement compliquées sur l'esclavage, comme par exemple, quand il annonce son trouble bipolaire, il le fait comme un Kanye West, c'est-à-dire d'une manière extrêmement provocante, en jetant sur la une de son album I Hate Being Bipolar, It's Awesome, donc je déteste
être bipolaire, c'est génial. C'est du buzz sur la maladie, du buzz sur tout.
Pas tellement, je trouve que justement, si on s'y penche, c'est un peu plus intéressant, puisque c'est quand même quelqu'un qui a eu de notoriété publique des problèmes de santé mentale, qui a dû arrêter sa tournée, en pleine tournée, parce que justement ça n'allait pas et qu'il a été hospitalisé, et qui a quand même assorti cette prise de parole de longues interviews où il parle de la place de la santé mentale dans la communauté afro-américaine et de quel point c'est extrêmement compliqué pour eux de consulter, que c'est extrêmement stigmatisé, et notamment pour les hommes afro-américains. Et donc en parlant de cette manière qui est propre à lui-même, c'est-à-dire extrêmement provocante, comme il le fait sur d'autres sujets, il arrive, je pense, à toucher quand même des personnes qui n'auraient pas été touchées sans cette prise de parole. Donc là-dessus, c'est ce qui est intéressant, je trouve, en ce moment, c'est qu'on a vraiment beaucoup de prises de parole différentes. Ça va de Selena Gomez à Monsieur Garouste, en passant par Kanye West, et que chacun, je trouve que dans chacune de ces prises de parole,
on peut toucher différents publics.
On peut toucher différents publics.
Mais c'est pas pour autant que tous les publics, docteur Jean-Victor Blanc, seront bienveillants, parce qu'il y a aussi, par le biais des réseaux sociaux, on dit ce dont on souffre, on raconte y compris des scènes pathétiques, et pourtant il y a encore parfois un déchaînement de malveillance. Comment on l'explique, ça ?
Alors, ce déchaînement de malveillance sur les réseaux sociaux, il est le reflet de, finalement, la malveillance de notre société, malheureusement, envers la santé mentale. Donc, je pense que, je suis résolument optimiste, parce que déjà, je pense qu'on se doit de l'être en tant que psychiatre. Et puis, parce que, pour le coup, ce qui est intéressant avec Pop et Psy, c'est que ce livre, j'aurais pas pu l'écrire il y a 10 ans. Alors, non seulement parce que j'étais trop jeune, mais surtout parce que la plupart des exemples sont récents ou ultra récents.
Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui change y compris dans la fiction, d'ailleurs. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, cette fiction traite de manière plus juste votre domaine, votre spécialité, qu'il y a 20 ou 30 ans ?
Sans aucun doute. Alors, c'est, en tout cas, dans les œuvres qui sont présentées et dans la place qu'elles prennent, sans aucun doute. Et ce que j'observe aussi, notamment avec justement les conférences, le livre, etc., c'est que de plus en plus de scénaristes, par exemple, peuvent me solliciter pour avoir un avis sur justement leur représentation. La série Mentale, par exemple, qui est sorti récemment, a fait appel à beaucoup de médecins, rencontré beaucoup de psychiatres, de patients, d'usagers, de professionnels pour écrire leur scénario.
C'est plus documenté.
C'est plus documenté et il y a un regard qui est quand même plus bienveillant sur le sujet. Donc on se permet moins, je pense, de faire des choses extrêmement stigmatisantes et qui sortent finalement de une ressuscité de Volodymyr Koukou 40 ans plus tard, quoi.
Alors, tout à l'heure, vous avez parlé justement de la perception de la maladie mentale au sein de certaines communautés. Il y a vraiment une dimension culturelle par rapport à ça. D'ailleurs, je ne vous le cache pas, on a tenté en vain de joindre le professeur Samuel Mampunza, qui est neuropsychiatre à Kinshasa. Hélas, la ligne téléphonique n'était pas au rendez-vous, donc on ne peut pas lui donner la parole. En préparant l'émission, on avait vu avec lui que ce qui se dit, ce qui se révèle, par exemple, à New York, à Los Angeles, à Londres ou même à Paris, comme on l'a vu avec Gérard Garouste, eh bien, ça ne se dit pas encore partout dans le monde, particulièrement sur le continent africain. Même si un spécialiste, un grand spécialiste, un psychiatre peut être amené à soigner, à prendre en charge des célébrités locales, celles-ci lui disent « Docteur, ça reste dans mon cabinet ».
Bien sûr. Alors ça, je pense que là aussi, on peut avoir de l'espoir. Certaines maladies comme la tuberculose ou le diabète, il n'y a pas plus tard que 40 ou 50 ans, c'était des maladies, les patients continuent de nous dire, c'était impossible d'en parler, des patients âgés ou des patients qui nous parlent de leurs parents, disent, voilà, c'était le tabou de la famille, cette grand-mère diabétique, ce grand-père qui aurait fait un séjour dans un sanatorium pour une tuberculose. Et pourtant, aujourd'hui, ça ne provoque que de l'indifférence.
Même si certaines maladies, y compris infectieuses, restent totalement stigmatisantes, on pense bien sûr au VIH-Sida. Hein. C'est pas quelque chose qui est facile de dire.
Bien sûr.
On parlait avant des maladies honteuses,
oui.
Pour parler des maladies vénériennes, des IST. Ça veut dire que peut-être demain, les maladies mentales auront ce même statut, on va dire, elles pourront enfin sortir du bois, ne plus être considérées comme quelque chose de honteux, même si, bien évidemment, ce n'est pas le cas.
C'est mon vœu le plus cher. Et typiquement, le très bon exemple que vous citez avec le VIH, c'est vrai que le VIH, les choses ont quand même évolué. On est quand même passé en 20 ans d'une maladie qui était indicible et qui était impossible à communiquer autour, impossible à dire, etc. Quelque chose qui quand même maintenant est de mieux en mieux perçu parce qu'il y a eu un gros combat associatif de la part des usagers, mais aussi des médecins, des professionnels, pour justement changer le regard sur cette maladie-là et pour faire aussi augmenter les connaissances. Parce qu'à partir du moment où on comprend ce que c'est et comment ça se transmet, déjà on voit bien que ça diminue la stigmatisation pour la santé mentale le jour où les personnes pourront comprendre que la schizophrénie n'a rien à voir avec la violence, que le trouble bipolaire ou la dépression, ce n'est pas du cinéma, mais que ce sont des maladies qui touchent un organe qui s'appelle le cerveau. Je ne vois pas pourquoi ces clichés perdureront et pourquoi cette discrimination, cette violence continuera envers nos patients.
Docteur Jean-Victor Blanc, vous prenez en charge particulièrement à l'hôpital Saint-Antoine des patients assez jeunes. Est-ce que cette nouvelle génération, justement, elle aborde avec vous ce parcours des célébrités? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils connaissent? Est-ce qu'en consultation, ils disent « Ah, j'ai vu une interview d'un tel ou d'un tel et ça m'a fait penser peut-être à certains de mes comportements ?»
Ça peut arriver. Alors, dans le cadre de consultation, ça peut arriver. Dans le cadre de la psychoéducation également, pour des patients qui sont en phase de rétablissement, effectivement, pouvoir être associé à une célébrité, un personnage public, quelqu'un qui a du succès. Et là, encore une fois, chacun avec son référentiel. Ça peut être effectivement Van Gogh ou Maria Carey. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont extrêmement positives et qui permettent de dire, bah oui, je peux y arriver. Et en tant que personne atteinte de troubles psychiques, je ne suis pas que la une de la veille sur un fait divers venant de quelqu'un qui aurait un trouble psychique. Donc pour le coup, ces modèles positifs, on voit que c'est porteur sur beaucoup de sujets. On l'a vu par exemple sur des questions comme le féminisme ou la minorité ethnique, la visibilité de personnes.
L'effet d'appel.
Et l'effet d'appel, exactement, positif. Ça permet d'avoir une meilleure acceptation de soi et aussi d'avoir plus d'espoir. Donc il n'y a pas de raison que ces mécanismes-là qui existent pour d'autres discriminations, ce ne soit pas le cas pour la santé mentale.
En conclusion, on reprend un petit peu question voiture-balai, on va dire. Vous avez vraiment l'impression que plus nombreux seront les artistes à assumer ces troubles, plus la société s'ouvrira, mais quand même on peut dire attention, il y a quand même cette malveillance, il y a quand même ce voyeurisme. On n'a pas envie, quand on est chanteur, d'être finalement être le chanteur bipolaire.
Effectivement, mais ce qui est extrêmement riche justement avec ces prises de parole, c'est que un personnage comme Maria Carey ou comme Kanye West, ils peuvent avoir à un moment donné de leur carrière une prise de parole sur le sujet, mais là on rentre
ça
en pleine
ça ne nuit pas au succès à voir les derniers résultats de l'album de Kanye West.
Exactement, qui est passé à autre chose, qui maintenant fait un album de gospel, tant mieux. Maria Carey qui là se prépare à la période de Noël à envahir les
c'est
ondes.
C'est comme les chocolats, ça va ensemble.
Exactement, elle revient en même temps que les Ferrero Rocher, parfait, mais on
marque.
Se dit pas pardon, mais elle se dit pas, on se dit pas, oh bah tiens, la chanteuse bipolaire non. Qui va revenir. Non, elle passe à autre chose. C'est un reflet aussi d'une scénarisation et de la vie des personnalités publiques, mais ce serait injuste de leur reprocher de ne pas être que le porte-parole d'une maladie. Ça, ce serait quand même dommage.
On vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je cite à nouveau le titre de ce livre, Pop et Psy, publié aux éditions Psy, opposition Plomb, je mélange tout. Docteur Jean-Victor Blanc, je rappelle que vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris.
Priorité santé sur RFI.
Nous revenons sur cette nouveauté qui s'annonce en France en termes de dépistage néonatal. Une sixième maladie grave sera systématiquement dépistée à compter de l'an prochain. C'est ce qu'a annoncé tout récemment la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Et puis par ailleurs, la Haute Autorité de Santé va rendre prochainement un avis sur l'extension là, du dépistage de la drépanocytose en métropole. Et pour en parler avec nous, nous sommes en ligne avec le docteur Corinne Pondaré. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la drépanocytose, vous dirigez le centre de référence pédiatrique au sein du centre hospitalier intercommunal de Créteil. Alors aujourd'hui, hein, pour un petit peu brosser le tableau général, en métropole, qui sont les nouveaux-nés concernés par ce dépistage de la drépanocytose ?
Alors le dépistage est ciblé et non systématique et il est proposé aux enfants dont les parents sont originaires de pays à risque, c'est-à-dire de pays où la maladie est beaucoup plus fréquente et c'est des pays globalement où il y a encore beaucoup de paludisme.
Alors si on précise bien en métropole, hein, c'est parce que pour l'outre-mer en revanche, là le dépistage est systématique.
Il est systématique, voilà.
Alors, extension du dépistage de cette maladie génétique, donc on l'a compris, qui affecte l'hémoglobine. Beaucoup de nos auditeurs connaissent bien la drépanocytose. Oui. C'est quelque chose que vous réclamez depuis longtemps, cette extension, docteur Pondaré ?
Oui, depuis très longtemps, puisque déjà en 2012, le ministre de la Santé avait saisi la Haute Autorité de Santé pour poser justement la question de l'extension à l'ensemble des nouveau-nés de France, de métropole. Et à l'époque, finalement, il avait été conclu qu'il n'y avait pas assez d'arguments scientifiques pour la généralisation. Mais là, on pense qu'on peut en apporter, puisque on a maintenant montré, c'est des études très récentes, que certains enfants n'avaient pas été dépistés parce que justement, ils n'entraient pas dans les critères. Et certains enfants sont justement, il y a un enfant qui est décédé hein, parce qu'il avait, il n'avait pas été dépisté parce qu'il ne pouvait pas l'être hein, selon les critères actuels. Donc ça montre bien que les critères, ils ne tiennent plus et qu'il faut aller vers un dépistage systématique.
Et rappelez-nous docteur, pourquoi justement ce dépistage précoce est si important ? Pourquoi c'est si important de traiter les enfants dès leur plus jeune âge ?
Ben, comme toutes les maladies dépistées, si on le sait précocement, ça permet d'avoir des soins précoces et justement d'éviter les complications précoces qui peuvent être parfois dramatiques, en particulier les complications infectieuses, puisqu'elles sont plus graves et plus rapides chez ces enfants. Donc si les parents sont informés, ils viennent à l'hôpital plus vite et les médecins agissent plus vite.
Et sans mettre en concurrence hein, les différentes maladies, c'est pas du tout l'objet. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la drépanocytose, eh bien, c'est la maladie génétique la plus fréquente en France. Elle n'est pas dépistée systématiquement par rapport à d'autres maladies qui sont excessivement rares.
Voilà, c'est-à-dire que c'est la première maladie génétique dépistée en France. Parmi les cinq actuelles, et puis la sixième certainement, c'est de loin la plus fréquente. Hein, et on est quasiment à 500 nouveau-nés par an qui naissent avec cette maladie.
Et donc, ce dépistage, vous l'attendez, vous, avec votre équipe en service pédiatrique à Créteil, vous l'attendez pour quand ?
Ben on attend que l'extension soit faite, parce que pour l'instant, on entend dire que ça va être fait, mais on n'a pas la confirmation.
Et donc, dossier à suivre, comme on dit. On vous remercie beaucoup hein, d'avoir répondu à nos questions, docteur Corinne Pondaré. Je rappelle que vous dirigez le centre de référence pédiatrique sur la drépanocytose au sein du centre hospitalier intercommunal de Créteil. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est tout ça, Maquet, Ophélie Lassène, Didier Bleu, Laurence No. Lundi, journée spéciale déchets sur RFI, nous allons parler de l'impact sanitaire de ces déchets. Insalubrité, conséquences pour la santé respiratoire, prolifération des animaux vecteurs de maladies. On attend, bien sûr, vos témoignages. N'hésitez pas à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. On se retrouve lundi. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Faites comme tous nos clients prévoyants, mettez à l'abri ceux qui vous sont chers. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.